Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, les discriminations raciales systémiques sont-elles enracinées en France? Les manifestations de la semaine dernière aux États-Unis comme en France ont conduit beaucoup à comparer le racisme tel qu'il existe des deux côtés de l'Atlantique. Là où on parle de racisme systémique aux États-Unis, la France tient à l'idée qu'elle se fait de son universalisme républicain, un projet universaliste et égalitaire qui empêcherait qu'on puisse parler de racisme d'État ou de discrimination systémique pour notre pays. C'est pourtant ainsi que le défenseur des droits, Jacques Toubon, a qualifié la semaine dernière le harcèlement discriminatoire de jeunes Français issus de l'immigration. Alors peut-on comparer les situations? Comment nommer les actes racistes en France? Font-ils système? C'est ce que nous allons voir avec nos quatre invités. Jean Biman, elle est professeure de sociologie à l'Université de Californie à Santa Barbara et elle est autrice de Citizen Outsider, Children of North African Immigration en France, qui est paru à California Press en 2017. Bonsoir Jean Biman.
Bonsoir.
Et puis avec nous Frédéric Potier, il est préfet en mission de service public nommé délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Vous l'êtes depuis 2017. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également Marianne Matar-Bonucci, professeure d'histoire à l'Université de Paris 8, spécialiste du fascisme entre autres et présidente d'une association dont elle parlera dans cette émission, l'association Alarmée. Bonsoir Marianne.
Bonsoir.
Et avec nous également, Norman Ajari, vous êtes philosophe, vous êtes auteur d'un livre important qui s'intitule « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race » paru l'année dernière aux éditions La Découverte et vous êtes professeur à l'Université de Philadelphie où vous vous trouvez. Bonsoir.
Bonsoir.
Et d'abord, commençons peut-être avec vous, Frédéric Potier. Vous avez écouté évidemment le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui donnait une conférence de presse importante tout à l'heure à propos justement de ce qui, des critiques qui étaient portées contre la police en France et en particulier des critiques sur la discrimination raciale, des critiques sur le racisme qui serait intégré par un certain nombre de policiers. Il a donc à la fois dit qu'il allait combattre fermement le racisme au sein de ses troupes, mais également il a expliqué que, eh bien, il n'y avait pas de comparaison à faire, disait-il, entre les États-Unis et la France. Il n'y a pas d'institution raciste ou de violence ciblée, a dit le ministre de l'Intérieur. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Frédéric Potier?
Oui, je crois que comparer la France et les États-Unis serait une erreur. Notre rapport à la ségrégation raciale, notre rapport à l'esclavage, notre rapport à la violence sont complètement différents. Et donc, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, même s'il y a des points de comparaison, même si de l'autre côté de l'Atlantique, on a tous été particulièrement choqués, émus des images de l'agonie de George Floyd. Je crois que pour autant, il ne faut pas céder à des raccourcis un peu simplistes. Et si vous permettez une petite correction par rapport à votre présentation, je ne crois pas qu'il y ait de racisme d'État ni de racisme systémique en France. C'est-à-dire que nos lois ne sont évidemment pas racistes. On n'est pas en Afrique du Sud, on n'est pas dans l'Allemagne nazie. Et je ne crois pas non plus qu'il y ait de racisme systémique.
Et d'ailleurs, j'ai parlé de discrimination systémique, c'est ce dont a parlé le défenseur des droits. Je n'ai fait que le citer.
J'y viens. Et dans l'affaire que citait le défenseur des droits, il s'agissait d'une équipe de police dans le 12e arrondissement entre 2013 et 2015 qui, effectivement, ciblait systématiquement une bande de jeunes, des jeunes de quartier. Mais pour autant, je ne crois pas que le défenseur des droits ait dit que l'ensemble de la police française faisait l'objet d'un racisme systémique ou de discrimination systémique.
Voilà. D'accord, très bien. Et c'était bien de donc corriger effectivement cette impression, mais néanmoins, il a bien cité ce terme. C'est pour cela que j'avais cité en ouverture de cette émission. Marianne Matar-Bonucci, vous êtes d'accord, vous qui présidez cette association qui s'appelle Alarmée. D'ailleurs, que signifie Alarmée? C'est un acronyme qui signifie Association de lutte contre l'antisémitisme et les racismes par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche. Et c'est né au sein de l'université où vous travaillez. L'Université de Paris 8, Vincennes à Saint-Denis.
Absolument, le but de l'association qui réunit donc des chercheurs, des enseignants, des gens qui sont simplement intéressés par ces sujets et mobilisés autour de ces questions, c'est de lutter contre les racismes en utilisant la connaissance et en diffusant, en déconstruisant les préjugés, en analysant les différentes situations. Alors, pour répondre, pour rebondir sur le débat actuel, autour de ces questions. Nous avons mis en ligne aussi une revue qui s'appelle Revue à l'armée, mmh. où nous proposons un certain nombre de notices. Il n'y a pas encore de notice sur racisme systémique ou racisme institutionnel, mais dès qu'elle existera, on pourra voir quelle est l'origine de ces termes qui ont été repris effectivement dans le débat public et par un certain nombre de chercheurs et qui sont, je ne vais pas faire un cours d'histoire sur le sujet, mais qui sont nés quand même dans un contexte états-unien très précis, qui est celui des années 60, c'est-à-dire du moment précisément de lutte, des luttes pour les droits aux États-Unis. Et l'un des inventeurs de, par exemple, la notion de racisme institutionnel, que certains emploient pour ne pas parler de racisme d'État, eh bien, c'est Carmichael qui est un des leaders donc du Black Power. Mmh. Donc, ces expressions sont nées dans un contexte états-unien.
Elles ont... Et ça les empêcherait d'être utilisées dans le contexte français, selon vous ?
Non, alors pas du tout, mais simplement, il ne faut pas oublier qu'elles sont nées aussi pour être des instruments de lutte dans un contexte états-unien. Mmh. Le fait qu'elles soient nées aux États-Unis n'est pas gênant. Les concepts circulent dès lors qu'ils ont une valeur heuristique, mais plaquer, si vous voulez, ce type d'analyse, en effet, sur un contexte différent et réducteur et peut même être dangereux. Donc moi non plus, surtout quand on a travaillé sur Vichy ou sur le fascisme et qu'on a vu ce que sont des politiques racistes d'État, c'est-à-dire un État qui choisit délibérément de discriminer, de persécuter, évidemment, on ne se sent pas autorisé à parler de racisme d'État pour la situation actuelle. Pas davantage de racisme institutionnel. La notion de racisme systémique est plus compliquée, pas inintéressante, parce que elle indique que on ne peut pas lutter contre le racisme seulement, mais qu'il y a une organisation sociale qui permet aussi ce racisme.
Qui permet de perdurer. Je vais te passer la parole aux autres invités, à Jim Beeman et à Norman Najari. Alors j'imagine que Norman Najari, vous avez fait toutes vos études en France, vous êtes franco-américain, vous enseignez maintenant à Philadelphie depuis cette année, vous avez publié l'année dernière un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race ». J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être annoncé à la fois par Frédéric Potier et par Marianne Matar-Bonucci.
Tout dépend des points, disons. Je suis d'accord avec la généalogie la notion de racisme systémique qui a été déployée. Mais ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est sur l'écart considérable qu'on essaye de fabriquer entre la situation française et la situation états-unienne.
Il y a une raison justement à la construction de cet écart, selon vous?
Évidemment, il y a des raisons, mais il faut bien les situer. La différence fondamentale, selon moi, entre les États-Unis et la France, c'est que les États-Unis ont été fondés comme une colonie de peuplement. C'est-à-dire que c'est un pays qui a été fondé par la conquête et par le génocide des populations amérindiennes, ce qui évidemment n'est le cas d'aucune des nations européennes. Mais lorsqu'on fait porter la différence fondamentale sur une histoire esclavagiste qui serait celle des États-Unis et qui ne serait pas celle de la France, cela me semble absolument inexact. La France a construit sa richesse sur l'exploitation esclavagiste des Antilles. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, l'exploitation de la seule Haïti avait une importance économique plus importante pour le Royaume de France que ne l'aura l'ensemble de l'Empire africain au XXe siècle.
C'est pour ça d'ailleurs que vous essayez dans votre livre « La dignité ou la mort » de faire remonter la question de l'origine de la modernité européenne, non pas comme on le pense souvent au XVIIIe siècle, mais en 1492, à la fin du XVe siècle, à partir du moment où les Européens posent le pied sur le territoire qui va devenir l'Amérique.
Oui, absolument. Il n'y a aucun point de l'imaginaire raciste, négrophobe, états-unien, aucun point de la construction de l'image du noir, etc., qui peut étonner un Français ou plus généralement un Européen. C'est le même imaginaire parce que, tout simplement, et la Louisiane en est le témoignage, les États-Unis actuels sont aussi le produit de l'Europe. C'est, comme disait Frantz Fanon, l'enfant de cette Europe. Et l'imaginaire états-unien, bien entendu, est une radicalisation d'une certaine façon de l'imaginaire européen, mais il n'en est pas absolument différent. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit qu'il y aurait... Les États-Unis ici servent un petit peu de bouc émissaire d'une certaine façon. On dit il n'y a pas de racisme d'État en France, parce que regardez, il n'y a pas de loi raciste, mais par contre, aux États-Unis, il y en aurait. Mais aux États-Unis non plus, il n'y en a plus. Bien entendu qu'il n'y a, il n'y a plus de loi raciste aux États-Unis depuis tout le mouvement des droits civiques dans les années 60 et 70, comme cela a été souligné. Et pourtant, malgré cela, on admet qu'aux États-Unis, il y aurait encore une persistance du racisme en France. On dit, mais regardez, les États-Unis, même s'il n'y a plus de loi raciste, ils sont encore prisonniers de cette idée-là, prisonniers de ce racisme-là. Et magiquement, en France, cet État colonial et cet État esclavagiste ne subiraient pas cette même continuité de l'inconscient et cette même continuité dans les pratiques policières. Il me semble là qu'on a une certaine représentation, un certain anti-américanisme, disons, bizarrement, qui est très fréquent en France et qui nous empêche de voir que les États-Unis...
Des points de comparaison.
Les points de comparaison je pense que les points de comparaison existent véritablement. Mmh. Et on ne peut pas dire que les États-Unis ont une histoire esclavagiste que la France n'a pas. Ouais. La France a quelque chose en plus même que les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire très profonde de conquête territoriale du continent africain que les États-Unis n'ont pas. Je ne dis pas que les États-Unis sont moins racistes que la France, mais je dis qu'il y a au contraire plus de convergence en ce qui concerne le rapport aux Noirs et le rapport au racisme, qu'on ne veut bien le dire.
Jean Biman, vous n'êtes pas encore intervenu, je suis désolé, vous êtes loin, vous également, comme d'ailleurs Norman Ajari, puisque vous enseignez en Californie. Vous êtes professeur de sociologie, vous vous intéressez depuis longtemps à l'histoire française et à la sociologie française, en travaillant justement sur des destins d'enfants d'immigrés en Île-de-France. Vous en avez, dans votre dernier livre en 2017 à California Press, vous en avez interrogé 45, qui sont entre maintenant 24 et 49 ans, et qui donc appartiennent plutôt à la classe moyenne, qui ont eu un destin de progression sociale par rapport à leurs propres parents dans la société française, et qui sont marqués par cette question de la race ou du racisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez non pas procédé, mais ce que vous concluez justement de cette comparaison que l'on fait généralement entre les États-Unis et la France, en disant d'un côté de l'Atlantique il y a un racisme institutionnel, systémique, etc. Et de l'autre côté, non.
Oui, je crois que ce que j'ai trouvé, c'est que même si dans le système républicain, la républicaine qui dit que tout le monde est égal, les gens d'origine maghrébine, et soit on peut dire aussi les gens noirs, se sont traités différemment que les gens blancs. Donc même si la France dit qu'on n'a pas de statistiques ethniques, le racisme n'existe pas, les gens qui sont racisés, ce sont ça. Et je suis tout à fait d'accord de ce que Norman vient de dire, c'est le fait que si on voit l'histoire de l'esclavage ici aux États-Unis et en France, on voit bien que les pères ici aux États-Unis, les pères fondateurs, on peut dire Thomas Jefferson, je ne sais pas qui, ont été influencés par les logiques européennes, les logiques françaises, etc. Donc, dans mes études, que ça fait plus que 10 ans que j'ai fait la recherche en France sur les questions raciales, c'est clair que ça existe encore une logique coloniale qui existe dans les système français, qui existe dans les sociétés françaises.
Et
les
gens... Ça n'est pas la même chose de dire le système français ou la société française. Il peut y avoir du racisme dans la société et pas forcément dans le système de gouvernement.
Oh oui, pardon, c'est clair. Non, je parle de questions structurelles.
D'accord.
Donc, on peut voir dans la police, on peut voir dans l'éducation, on peut voir, par exemple, quand les gens cherchent un emploi, un logement, je sais pas quoi, c'est clair qu'il y a une logique coloniale, une logique raciste, une logique de suprématie blanche, on peut dire, qui persiste pour les gens avec qui j'ai fait la recherche.
Vous êtes, alors évidemment, Frédéric Potier, c'est vous qui travaillez au quotidien, ou Marianne Mater-Bonucci, sur le combat contre le racisme, en essayant justement de faire en sorte que ça ne soit pas un système raciste qui existe en France, mais des cas de racisme que l'on puisse combattre. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit par à la fois Norman Ajari et par Jean Biman? Frédéric Potier.
Peut-être un mot d'abord sur notre histoire coloniale. Évidemment, la France a une histoire coloniale et elle a eu aussi une histoire esclavagiste, notamment aux Antilles. Je crois que pour autant, les conséquences et les structurations sont pas les mêmes, par exemple, d'un territoire à l'autre. Lorsqu'on va en Martinique ou en Guadeloupe, évidemment que le poids de l'esclavage est très présent et on le voit sur les structures économiques, sociales de ces territoires-là.
En revanche, on le voit aussi quand des révoltes sociales qui arrivent très régulièrement, par exemple en Martinique, revendiquent justement cette histoire lointaine de l'esclavage en disant c'est encore pesant dans nos sociétés.
Absolument. Pour ce qui concerne l'Hexagone ou la métropole, la différence, je crois, est que on n'est pas exactement sur le même le même type de structure avec des populations qui auraient été esclavagistes ou esclavagisées. Donc, je pense que là, la comparaison quand même a ses limites. Pour autant, l'histoire coloniale de la France, évidemment, elle existe. Nous travaillons, nous, beaucoup, par exemple, avec un historien qui s'appelle Pascal Blanchard. Et on a souvent...
Qui est un concepteur de sexe, race et colonie, qui absolument. Est sorti l'année dernière. Et qui, d'ailleurs, a choqué certains parce qu'il utilisait le terme de race dans son titre.
Absolument, et qui a beaucoup choqué, mais c'est un ouvrage très intéressant parce qu'il traite des imaginaires et des représentations. Et un élément qui est particulièrement... je crois intéressant, c'est comment une société a pu être traversée par des représentations racistes. Et ce qu'explique Pascal Blanchard et d'autres, justement, c'est par exemple le poids et l'influence des zoos humains, ou ce qu'on a appelé postérieurement des zoos humains, parce qu'à l'époque, ils ne s'appelaient pas comme ça. Mmh. Et ces zoos humains, on les a trouvés dans de nombreux pays occidentaux, et ils ont effectivement représenté des populations, notamment des populations d'outre-mer, comme des sauvages, et donc au parc de Vincennes, juste à côté de Paris, il y avait un village Kanak. Et dans ce village Kanak, il y avait, par exemple, l'arrière-grand-père de Christian Carambeu, grand footballeur bien connu en France. Et donc, je crois que ces représentations, elles sont évidemment là, en quelque sorte, parce qu'elles laissent des traces. Pour autant, je pense qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la représentation de ce qui est de l'ordre de la politique publique. Et aujourd'hui, une des grandes différences par rapport à ce qui a pu avoir lieu dans d'autres pays ou d'autres circonstances, c'est que l'État essaye de lutter contre ces préjugés racistes, l'État essaye de lutter contre ces stéréotypes. Et donc, moi, c'est la modeste mission qui m'a été donnée avec
toute l'équipe. Importante mission, ça n'est pas une modeste mission. C'est une mission
modeste parce que c'est très difficile, parce qu'on n'a pas de baguette magique et au-delà des grandes déclarations, ce qui nous anime, c'est trouver les meilleures actions très concrètes au plus près du terrain pour faire reculer ces préjugés. Et ça, c'est pas évident. Donc, ça passe par beaucoup d'éducation, beaucoup de formation.
Oui, ces préjugés, y compris dans la police, vous pouvez les écouter quand vous écoutez le reportage d'Arte Radio de la semaine dernière. Vous avez peut-être jeté une oreille sur ce reportage où on a enregistré une discussion entre policiers qui sont absolument terribles à entendre. En l'occurrence, Marianne Matar Bonucci, effectivement, qui sont à la fois suprémacistes blancs, disent-ils, masculinistes et profondément raciste.
Tout à fait. Non, mais je crois que personne ici ne songe évidemment à nier l'existence d'un racisme au sein de la police. La question qui se pose est de savoir si ce racisme est plus important au sein de la police qu'il ne l'est dans le reste de la société. Il est possible que ce soit le cas, et là il y aurait une vraie enquête effectivement de cet ordre-là à mener, en tout cas si on regarde où vont les préférences électorales des policiers, certains votes comme celui du Front National sont surreprésentés, donc il est en effet possible que le racisme y soit plus important. Mais dire qu'il y a du racisme dans la police, ce n'est pas dire que la police est raciste. Je crois que cette différence est quand même très importante. Alors, on peut quand même, vous avez donné effectivement cet exemple nauséabond de ces conversations qui ont été saisies, et on voit racisme, antisémitisme...
Tout y est.
Tout y est, absolument. Mais je crois que l'une des manifestations... Alors, juste pour revenir sur la comparaison, là où, par exemple, il peut quand même y avoir débat, me semble-t-il, c'est sur les chiffres. Sur les chiffres de morts qui sont de morts racistes de violences policières, peut-être en parlerons après, qui sont imputés à la police. Je crois qu'on est quand même là dans des ordres grandeur très différents. Mais une des manifestations très importantes en France de cette forme de racisme, c'est le contrôle au faciès. Et là, pour enseigner dans une université de Seine-Saint-Denis, je peux vous dire que j'ai des étudiants qui, quelquefois, sont contrôlés dans une même journée, deux fois, trois fois, et qui vivent cela comme une véritable persécution administrative. Donc là, il y a quand même une question qui se pose, que le gouvernement devrait affronter. Je crois que sous le gouvernement précédent, il avait été question...
Ben, le ministre a dit tout à l'heure qu'il allait adresser une instruction à tous les services de police et de gendarmerie afin de rappeler le cadre des contrôles d'identité. Je demande également que l'usage des caméras piétons soit renforcé lors de ces contrôles d'identité.
Bon, ben ça peut être bien, mais c'est probablement pas suffisant. Moi, je crois que l'une des clés passe quand même beaucoup par l'éducation, y compris des policiers. Il y a quelques jours, de nombreuses associations antiracistes avaient justement publié un texte, une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur, dans laquelle on demandait que plus soit fait en matière de formation et d'éducation. Et voilà, donc je crois que ça, c'est absolument indispensable.
Avant de redonner la parole à Norma Najari et à Jean Biman, Frédéric Potier, très brièvement, dites-nous, vous formez à la DILCRA, vous avez une formation auprès des policiers. Vous tentez de le faire, en tous les cas, en particulier pour les plus jeunes, dans les écoles de police.
Absolument, on va dans toutes les écoles de police et de gendarmerie, et c'est des choses qui ne se faisaient pas du tout il y a 10 ans.
Portera ses fruits dans quelques années.
Et j'en suis absolument persuadé. Et quand je vois les jeunes générations de gardiens de la paix, ils sont à l'image de la société française en termes d'origine, de religion, je vais pas dire de conviction politique, parce que ça j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que la sensibilité beaucoup plus grande que nous avons collectivement sur ces sujets, elle est partagée par des jeunes policiers et des jeunes gendarmes. Et je crois que ça contribue d'ailleurs aussi au fait qu'un certain nombre d'affaires soient révélées dans la presse ces derniers temps.
Vous écoutez le temps du débat qui porte la question de les discriminations raciales systémiques sont-elles enracinées dans la société française? Et nous sommes avec Jean Biman, professeur de sociologie aux États-Unis, Frédéric Potier, que vous venez d'entendre, qui est délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Marianne Matar-Bonucci, professeur d'histoire à l'Université de Paris 8 et présidente de l'association de combat contre le racisme, l'association Alarmée, et Norma Najari, qui est auteur de La dignité ou la mort, éthique et politique de la race, et professeur à l'Université de Philadelphie.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Ils sont arrivés un matin, par dizaines, par centaines, sur des morceaux de bois, aux entrailles de chêne, sans bonjour ni question, pas même de présentation. Ils se sont installés et sont devenus les patrons, puis se sont transformés en véritables sauvages, jusqu'à les humilier au plus profond de leur âme. Enfants battus, vieillards, tués, mutilés, femmes salies, insultées et déshonorées, impuissants. Les hommes enchaînés subissaient les douloureuses lamentations de leur peuple opprimé. Mais chacun d'entre eux, en lui-même, se doutait qu'il partait pour un voyage dont il ne rentrerait jamais, qu'il finirait dans un port pour y être vendu. Il pleurait déjà son pays perdu, traité en inférieur à cause d'une différence de couleur. Chaque jour nouveau était annonciateur de malheur au fond des cales où on les entassait. Dans leurs esprits, les images défilaient, larmes au bout salées, larmes ensanglantées. Dans leurs esprits, longtemps retentiraient les chants de la partie de leur être qu'on leur a arraché, mais sans jamais tuer l'espoir qui les nourrissait, qu'un jour ils retrouveraient ces rivages féeriques d'où s'élève à jamais les tam-tams de l'armée.
Les tam-tams de l'Afrique du groupe IAM, avec évidemment un sample d'un morceau qui lui aussi évoque le racisme et aux États-Unis, puisqu'il s'agit de Pastime Paradise de Stevie Wonder dans le magnifique Song in the Key of Life. Norma Najari, vous insistez, vous, justement, sur l'influence de l'esclavage, et on l'a entendu lors de votre première intervention, sur l'imaginaire, sur la façon dont on conçoit en particulier les Noirs dans nos sociétés occidentales et dans les sociétés européenne. Vous êtes en débat avec d'autres historiens et vous dites tout compte fait, et vous avez cité tout à l'heure Frantz Fanon, eh bien voilà quelqu'un qui est plus connu aux États-Unis et dans le reste du monde pour évoquer justement cette question du racisme que peut-être même en France, sauf chez les rappeurs français qui l'ont beaucoup lu.
Oui.
On peut dire que la rumeur, par exemple, n'a cessé de citer Frantz Fanon.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vous rassure, il est tout de même connu dans la jeune génération de personnes qui militent, des personnes
Bien sûr.
Qui s'intéressent à ces
Bien
questions-là.
sûr, bien
Et
sûr.
c'est encore une nouvelle preuve du fait que la séparation qu'on tente de faire entre là-bas, c'est-à-dire les Antilles, ou c'est-à-dire les territoires d'outre-mer en général, et ici n'est pas si, comment dire, est beaucoup plus poreuse qu'on veut bien le dire. Une simple preuve institutionnelle de cela, c'est ce fameux Bunidom entre les années 60 et les années 80, qui a créé une espèce de
Le
pipeline
bureau d'émigration d'outre-mer, qui a été, au moment de la décolonisation, qui a été une façon de faire venir travailler en métropole beaucoup de gens qui venaient des Antilles et de Guyane.
Travailler, enfin, d'une manière, comment dire, qui représente une forme d'exploitation, qui a représenté une forme d'exploitation extrêmement douloureuse et une forme de déracinement extrêmement douloureux pour ces personnes-là, qui s'apparente d'une certaine manière à une forme de néo-esclavagisme. Mais je voulais, c'était juste pour tenter de, j'aimerais vraiment qu'on sorte de cet imaginaire qui veut absolument faire des Antilles et faire d'autres territoires de ce genre, comme Mayotte, etc., des territoires lointains et absolument exotiques qui n'auraient rien à voir avec la métropole. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est rebondir sur cette question qui est à mon avis centrale, qui est la question du contrôle d'identité. Le défenseur des droits, Monsieur Toubon, ce matin, a parlé d'instaurer une traçabilité de ce contrôle d'identité. Il y a cette mesure dont on a parlé de la caméra ventrale, etc. Effectivement, je pense que c'est très insuffisant et j'aimerais qu'on commence à débattre d'une question qui me semble beaucoup plus radicale et beaucoup plus importante, c'est-à-dire questionner cette institution elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il est véritablement légitime que le contrôle d'identité existe dans ce pays?
Bah, vous dites, par exemple, que en comparant avec des pays d'habeas corpus comme les pays d'origine, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, effectivement, cette question ne se pose pas de la même façon, même si, effectivement.
De la même manière, on considère que le corps d'une personne n'est pas quelque chose qui peut être palpé, qui peut être capturé simplement selon le bon vouloir d'un agent de police, et l'objet du quatrième amendement des États-Unis. Je ne vais pas faire des États-Unis un exemple, mais c'est juste pour dire que d'autres pays considèrent qu'il n'est tout simplement pas normal, qu'il est tout simplement même peut-être aberrant que n'importe quel agent des forces de l'ordre, simplement parce qu'il le décide, sans probable cause, sans cause probable, c'est-à-dire sans aucune suspicion qu'un délit ait été commis, peut venir vous alpaguer et dire je veux connaître votre identité, je veux vous fouiller, je veux savoir ce que vous portez sur vous. Peut-être que il faudrait véritablement ouvrir le débat pour savoir si ces choses-là qui peuvent déraper en viol, comme on a vu le cas avec Théo, qui peuvent débarquer qui peuvent aboutir à des assassinats, qui peuvent aboutir à des violences et qui sont absolument inefficaces puisque dans la très 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 vaste majorité des cas, s'il y a une amende qui en résulte ou s'il y a une condamnation qui en résulte, c'est pour un outrage ou rébellion, c'est pour un refus d'obtempérer, c'est-à-dire c'est pour des délits qui ont été causés par l'acte même de cet examen. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment mettre ça sur la table. Est-ce que c'est autre chose, cette institution? C'est-à-dire, pour pas parler de la moralité des policiers, pour pas parler de est-ce que ce sont des individus racistes, etc. Ce sont pas forcément les questions qui m'intéressent. J'ai pas envie de réformer moralement les individus, mais j'ai envie de mettre une muselière à cette institution pour que peut-être elle n'ait pas le pouvoir, elle n'ait pas la légitimité. C'est une question qui se pose, qui n'ait pas la légitimité de venir alpaguer, de venir interroger sur son identité n'importe quel citoyen, simplement parce qu'il se trouve dans l'espace public. Et on sait, tout bon l'a rappelé ce matin, 20 fois plus de probabilité pour une personne noire ou arabe d'être victime de ce type de contrôle, qui sont des contrôles absolument arbitraires. Est-ce que nous avons véritablement est-ce qu'il est véritablement légitime dans ce pays que les agents de police aient cet absolu arbitraire du pouvoir de pouvoir examiner, palper n'importe quelle personne à l'heure où les féministes scandent mon corps, mon choix? Je pense que c'est une question qui véritablement se pose dans tous les sens. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions naturaliser et considérer comme absolument normal.
Jane Biman, vous travaillez ces temps-ci, après votre livre sur les enfants nord-africains, les enfants de nord-africains immigrés en France, vous travaillez sur l'hypersurveillance des minorités. Qu'est-ce que vous appelez l'hypersurveillance des minorités? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce dont on parle, le contrôle d'identité, les contrôles aux faciès et les choses comme cela?
Oui, exactement. En fait, je crois que c'est la chose qui est... On doit être clair que la police, ça fonctionne d'un bras de l'État pour renforcer qui appartient à une société. Donc voilà, donc si on pense à les contrôles d'identité, c'est clair que les Noirs, les gens du Maghrébin ne se sont pas traités en tant que Français. Et c'est ça que je suis en train de créer sur ce sujet-là.
Et donc, vous pratiquez par interview, j'imagine. Et qu'est-ce qu'on vous dit justement de ce que vous rencontrez en tant que sociologue? Qu'est-ce qu'il vous dit justement de cette appartenance moindre à la société française que de voudrait le croire la société elle-même ou le reste de la société?
Well, la question, en fait, c'est que c'est pas ces gens-là qui se sont pas ne sont pas français. En fait, c'est la société française qui dit que voilà, vous n'êtes pas les Français en tant que les autres Français. Voilà, et on peut regarder la police quand un bras de l'État qui dit ça, qui renforce ça, ces messages.
Très bien. Frédéric Potier, on aurait tendance, parce qu'on a parlé de ça depuis le début de cette émission, tout compte fait, à toujours comparer avec les États-Unis, comme si effectivement les deux messages de liberté universelle qui se sont propagés à partir du XVIIIe siècle d'un côté et de l'autre de l'Atlantique étaient toujours en concurrence. D'une certaine façon, c'est ce que semblait nous dire tout à l'heure Norman Ajari. Et on le voit aussi quand on fait référence des chercheurs qui travaillent sur la question du racisme en France disent, mais c'est curieux, le nombre de rues et le nombre de lycées ou de collèges qui s'appellent Rosa Parks et le nombre très faible de gens qui sont issus justement de la condition noire, comme l'aurait dit Pape Ndiaye, à qui dont on baptise les rues, les espaces ou les lieux publics en France, comme si d'une certaine façon il y avait toujours la critique des États-Unis lorsqu'elles ont été ça a été un pays raciste, et puis peut-être moins pour la France. Frédéric Potier, qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison là?
Je ne sais pas si c'est une comparaison qui est absolument.
Je dis pas qu'elle est chiffrée numériquement, mais oui, c'est vrai qu'on a vu apparaître beaucoup de lieux qui s'appellent Rosa Parks depuis quelques années en France, par exemple.
Mais on a vu aussi beaucoup de bibliothèques ou de rues s'appeler Aimé Césaire, et moi je m'en félicite évidemment.
Bien sûr.
Je pense par contre qu'il y a une forme de malaise pour avoir.
France Fanon, c'est peut-être moins fréquent.
France Fanon, c'est peut-être moins fréquent, mais c'est peut-être moins consensuel aussi si on prend toute l'œuvre et tous les positionnements de France Fanon, ce qui n'était pas le cas d'Aimé Césaire, qui était quand même député-maire de Fort-de-France. Non, je pense peut-être qu'on a aussi eu dans certaines villes, et je repensais à Bordeaux, mais c'est le cas aussi de Nantes, de La Rochelle ou du Havre, hein, parfois du mal à voir ce qu'a été la réalité de l'esclavage. Et c'est là où, à mon avis, au-delà de la question de savoir si un système est meilleur que l'autre, qui n'a pas grand sens en fait. Hein. La question est de savoir surtout comment on peut progresser. Moi, j'ai vu vraiment certaines villes beaucoup progresser en la matière. Nantes, Bordeaux aussi, hein, il y a 15 ans, 20 ans. C'est des sujets qui n'étaient pas du tout abordés.
Mais maintenant, ça passe souvent par des associations. Pour Nantes, c'était l'association Les Anneaux de la Mémoire, par exemple, qui ont beaucoup fait pour pouvoir faire surgir ça dans le débat public à Nantes.
Et moi, je n'oppose pas l'action qui peut être militante à un moment d'une action qui peut être plus institutionnelle et plus de politique publique. Et à Bordeaux, que le musée d'Aquitaine est désormais une salle, c'est une très très bonne chose. Et qu'il y ait des statues maintenant de Toussaint d'ouverture, c'est une très bonne chose aussi. Donc je crois qu'on progresse un peu. Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Probablement. Là, c'est aussi une tension avec les associations, mais tension au terme presque physique du mot. Mais je désespère pas. Je crois qu'il y a des grands hommes qui sont un peu méconnus. Je pense à Félix Eboué, je pense à Delgrès, je pense à beaucoup d'héros de l'histoire politique française qui sont pas peut-être enseignés à leur juste contribution.
Marianne Matar-Bonucci, justement, sur cette reconnaissance d'une histoire qui serait plus complexe que ce que l'on enseigne habituellement ou dont on dit qu'on l'enseigne habituellement. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, vous qui enseignez à Paris 8, où justement toutes ces questions sont brassées et rebrassées très, très fréquemment?
Oui, ben, je pense que clairement les programmes scolaires ne font pas assez de place à cette histoire-là, et pas seulement à l'histoire de l'esclavage, mais plus de la colonisation. Mais je pense qu'il faut même affronter la question du racisme et des préjugés en tant que tels, et enseigner, soit en histoire, soit en sociologie, ce qu'est le racisme. Monsieur Ajari disait, je trouve que sa suggestion est intéressante sur les contrôles contrôle d'identité. Ça résoudrait probablement peut-être une partie du problème. Il disait, c'est pas mon ambition de réformer moralement. Bon, je me placerai pas sur le terrain de la morale, mais quand même sur le terrain de l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup à faire au sein de la société, qu'il y a une dimension idéologique, effectivement, du racisme, et que ce terrain-là peut être combattu, en effet, par l'éducation. Albert Memmi, récemment disparu, bon, disait, c'est le racisme qui est naturel et l'antiracisme qui ne l'est pas. Et je crois que ça invite à réfléchir, c'est-à-dire que il faut en effet là mettre en place, comme on l'a fait ces dernières années sur les questions de genre à l'école, un certain nombre de fondations. Juste une chose, je pense qu'on a parlé des violences policières, mais il faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce que il y a une autre dimension quand même des discriminations qui touchent les populations dont nous parlons, c'est la discrimination à l'embauche, c'est une discrimination professionnelle, et là, ça passe aussi par des politiques sociales. Bon, et tout cela, là-dessus, on a vraiment des enquêtes, hein. Je pense à l'enquête trajectoire et origine, en particulier, qui avait été faite par l'INSEE et l'INED, qui montre précisément, en dépit du fait qu'on n'a pas de statistiques ethniques, ce qui, de mon point de vue, est une très bonne chose, mais qui montre bien cette réalité. Donc, il y a une tâche immense qui passe par une lutte contre le racisme en tant que tel, mais qui passe aussi par des politiques de la ville, par des politiques sociales, par des politiques d'éducation. Hein. Et c'est en ce sens-là que, même si moi je suis assez réticente sur l'expression de racisme systémique, il est clair qu'on ne peut pas lutter contre le racisme tout court si on n'affronte pas aussi la question sur ces autres terrains.
Norman Ajari, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque chose s'est débloqué la semaine dernière en France avec cette grande manifestation qui avait été appelée par la famille d'Alma Traoré, et en particulier par ce grand nombre de manifestants qui sont sortis dans les rues alors qu'on leur a demandé de ne pas le faire?
Débloqué, je ne sais pas, parce qu'il y a une longue histoire de ces manifestations.
Bien sûr, elles sont très
contre les violences, etc. Il y a eu les marches pour la dignité qui ont inspiré le titre de mon livre et d'autres événements.
Et dès 2012, vous étiez déjà mobilisé sur ces questions-là. Ça a été même au départ de votre recherche, pourrait-on dire.
Je ne dis pas ça pour flétrir en aucune façon le succès indéniable, considérable et admirable de la manifestation de cette semaine, bien entendu. Mais c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose là non plus de nouveau dans le paysage français. Et qu'il est certain que la situation aux États-Unis a donné, d'une certaine façon, une visibilité, peut-être même une légitimité dans l'espace public plus général à ces questions-là, car on a bien vu que c'était un problème qui concernait la diaspora noire, la diaspora afrodescendante dans sa totalité. Je pense que c'est cela, la conscience qui est née là. Il ne s'agit pas simplement de parler de comparaison France États-Unis, mais véritablement de transformer la focale et de partir de l'expérience noire et de ses similitudes qui, en tout cas du point de vue des militants, car on ne peut pas effacer leur parole et l'importance de leur expérience telle qu'ils en témoignent dans ces manifestations-là, ils constatent que les paroles du mouvement Black Lives Matter, d'autres militants aux États-Unis, d'autres militants en Grande-Bretagne, d'autres militants en Allemagne, d'autres militants en Belgique, que tout cela fait écho et que cela crée quelque chose qui n'est, à mon avis, pas du tout une illusion ou pas du tout une espèce, comment dire, de rêverie ou de flou, mais qu'il constate que lorsque les militants de ces différents pays parlent, lorsque ces militants de l'immigration ou ces militants de la cause noire parlent, eh bien, ils parlent le même langage et ils narrent des expériences qui font écho les unes aux autres. Donc, je pense que si on parle si on considère les choses à partir de cette expérience noire, qui est partout issue de cette déshumanisation de l'esclavage et de cette déshumanisation de la colonisation, car nous sommes tous descendants d'esclaves ou de colonisés, nous autres les personnes noires, eh bien, cela crée cette émulation, cela crée cette espèce de nouvelle expérience panafricaine qui est aujourd'hui au devant de la scène dans le militantisme mondial.
Et ce que vous appelez l'essence noire dans votre livre, donc La dignité ou la mort. Norman Ajari, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes auteur de La dignité ou la mort, éthique et politique de la race, paru l'année dernière dans la très bonne collection Les empêcheurs de penser en rond aux éditions La Découverte. Merci à vous, Jean Biman, d'avoir été avec nous. On attend, on l'espère en tout cas, une traduction de votre travail justement sur la question des Citizen Outsider, des citoyens outsiders dans la société française, paru en 2017 à California Press. Et merci à vous, Frédéric Potier, d'avoir été avec nous, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Ainsi qu'à vous, Marianne Matin-Bolucci. On peut se rendre sur le site de votre association Alarmé. Il y a à la fois la revue Alarmé, mais également des contributions individuelles sur les sujets du racisme et de l'antisémitisme. Merci à tous les quatre. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Antoine Tricot, Fanny Richet, Rémi Baille, Hugo Boursier et Manon Prisset à la technique, Jacques Hubert, et à la réalisation, Olivier Bétard.